Mes frères et sœurs, vous avez entendu la prophétie, Jésus revient bientôt. Je pense que tous, on en est plus ou moins conscients. Et même s'il ne revenait pas bientôt, notre vie ne nous appartenant pas, il vaut quand même mieux être au clair au sujet de notre vie avec le Seigneur. Si on veut faire un petit peu bref, nous entendrons soit tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger, ou nous entendrons entre bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. On peut résumer un petit peu comment ça se passera lorsqu'on rencontrera le Seigneur Jésus-Christ. Nous entendrons soit l'un, soit l'autre. Je ressens dans mon esprit profondément de revenir sur certains aspects de certaines choses que je développe depuis un moment. Je me disais, si c'était ton dernier jour, qu'est-ce que tu aimerais dire? J'aimerais dire que, comme Paul, j'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, les gens perdront la foi, qu'ils perdront la conscience. C'est écrit qu'ils ont perdu la conscience. Et il parle des chrétiens. Des chrétiens qui ont perdu la conscience, il fait allusion à deux cas dans l'Église où Timothée se trouvait, il parle d'Hyménée, de Philette, qu'il a dû mettre en discipline, après, qu'il a livré même à Satan, c'est-à-dire qu'il les a exclus de l'Église pour qu'ils puissent un peu se ressaisir et revenir à Dieu, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc, nous voyons qu'un chrétien peut perdre la conscience. Oui, vous savez que le diable est un voleur, et c'est sa spécialité de tout faire pour nous voler la joie, la paix, la grâce, de tout nous voler. Il y a des gens qui sont retrouvés dans leur maison, il n'y avait plus rien. Il y a des voleurs, ils s'introduisent dans des maisons, ils piquent un ordinateur, ils essaient de trouver un truc ou deux. On a entendu le témoignage de gens qui sont rentrés dans leur maison, il n'y avait plus rien. Vous l'avez entendu, ça c'est entendu. Il y a des chrétiens qui en sont là. Il y en a, le diable a réussi à leur voler une bricole ou deux, mais je sais que plusieurs chrétiens ne se rendent plus compte que leur cœur est entièrement vide, mais un aveugle ne peut pas savoir exactement ce qui a disparu dans sa maison. Le Seigneur Jésus le dit dans l'Apocalypse, que personne ne prenne ta couronne. Que personne ne prenne ta couronne. Mes frères et sœurs, veillons à ce que personne et aucune situation et aucune affaire ne nous vole ce que le Seigneur nous a donné. Je ne vais pas citer les textes, vous le savez, il est écrit, c'est une prophétie, que les gens abandonneront la foi. Ils n'abandonneront pas les églises. Ce n'est pas écrit qu'ils abandonneront les églises. Beaucoup de gens continueront à fréquenter les églises parce qu'ils penseront qu'en fréquentant l'église, ils sont pieux. Jésus n'a pas dit quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il des gens dans les églises? Non. Il trouvera-t-il la foi? Le Seigneur Jésus parle de ceux qui ont abandonné le premier amour, etc. Nous avons vu dimanche dernier le témoignage d'Ésaü qui a tout perdu. Il a bradé sa bénédiction spirituelle contre des choses temporelles. Et quand il a voulu les récupérer, la Bible nous dit que c'était trop tard. Nous allons lire cette histoire, s'il vous plaît, dans 2 Rois, au chapitre 6. Il y a une grande bénédiction qui repose sur le prophète Élisée. Ils ont besoin de construire un local plus grand. Élisée est un homme de Dieu. Dieu bénit son ministère. Il faut un local plus grand. Qu'est-ce qui se passe? 2 Rois chapitre 6. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté !» L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui monta la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le !» Il avança la main et le prit. Amen. Et vous pouvez dire, « Merci Seigneur !» Croyez-moi, parce que cette histoire, vous l'avez lu peut-être beaucoup, souvent, mais laissez-moi vous dire qu'elle exprime combien la puissance de Dieu, par la croix, peut nous amener à retrouver ce que nous avons perdu. C'était au Jourdain. Le Jourdain, vous le savez, dans la Bible, représente le changement, la démarcation, une expérience nouvelle. Ils sont passés du désert au pays de Canaan en traversant le Jourdain. Ça veut dire qu'on passe du désert à l'abondance, on passe de la vie religieuse, routinière, à la vie spirituelle, etc. Le Jourdain représente ces choses-là. J'en ai parlé plusieurs fois dans la vie de l'Esprit. Jésus lui-même a été baptisé dans le Jourdain avant de commencer son ministère. Quand Élisée, ce prophète dont on vient de lire cette histoire, justement, a été revêtu d'une double portion de l'Esprit qui reposait sur Élie, ça s'est passé également au Jourdain. Ils avaient traversé le Jourdain ensemble. Et la bénédiction est venue sur cet homme à partir de ce moment-là. Cet homme, ce disciple, va faire une expérience avec Dieu. Et je ne sais pas si vous comprenez, quand on prend l'histoire de la parole, c'est pour que chacun nous sentions concernés. Ce n'est pas pour parler du gars, critiquer le gars, encenser le gars, faire une étude sur la situation. J'espère que vous avez tous compris que lorsqu'on prend un texte, c'est pour que nous puissions nous évaluer par rapport à notre foi et à notre piété. Un homme va faire ce que tout le monde faisait, le lieu était trop petit, et ils ont besoin d'un local plus grand. Chacun devait couper un arbre, et avec la hache qu'il avait emprunté ou qu'il avait acheté, j'en sais rien, et bien il devait participer à la construction de cette maison. Chacun avait quelque chose à faire. J'espère que vous êtes conscient également que dans l'Église du Seigneur, vous avez tous quelque chose à faire. Malheur à vous, si vous n'en êtes pas conscient. Je vous le dis avec cœur, et je crois que si le Seigneur est à la porte, il faudra réutiliser les expressions que Jésus utilise pour que nous comprenions exactement les choses. Est-ce qu'un pasteur a le droit d'utiliser cette expression « malheur à vous » ? Est-ce qu'il a le droit ? Ben oui. S'il est dans ce cas de figure où il ne fait rien, où il ne se sent pas concerné, oui, malheur à vous, ou malheureux, c'est peut-être plus doux, mais c'est exactement la même chose. Nous avons tous quelque chose à faire. Et cet homme a perdu le fer de sa hache, et paf, il tombe dans l'eau du Jourdain. Qu'est-ce qui se passe ? Ça représente un homme qui ne peut plus faire le travail. Alors cet homme a bien réagi, il n'a pas fait semblant, il n'a pas fui, c'est pas caché. Cet homme, de suite, a exprimé son désespoir d'avoir perdu ce fer de hache. Pourquoi ? De suite, oh, il était affronté. On voit cet homme, il est malheureux. Il est malheureux parce qu'il a perdu l'outil qu'il avait emprunté pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Pourquoi il était malheureux ? Eh bien, parce qu'il se sentait responsable. Et dans une église, à partir du moment où vous avez accepté de prendre le baptême, vous devriez tous vous sentir responsables de l'affaire du Seigneur. Ou est-ce que c'est l'affaire d'un conseiller d'administration ? Est-ce que c'est l'affaire d'un pasteur ? Ou de deux, ou de trois ? Est-ce que c'est l'affaire de quelques responsables, d'un noyau dans une église ? Ou est-ce que c'est l'affaire de tous ? Mes frères et sœurs, c'est l'affaire de tous. Et cet homme a fait une belle expérience parce que, premièrement, il s'est senti responsable. C'est bien d'être responsable. Ça nous ramène à cette histoire que j'ai évoquée au début, la parabole des talents. Vous savez qu'il a donné un saint talent à l'un, etc. Vous connaissez. Il y en a un qui, le talent, il l'a en terrain. Voilà. Celui qui n'en avait reçu qu'un. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas été responsable. Voilà. Il y a des gens irresponsables. Ils sont dans le royaume de Dieu, mais ils sont irresponsables. Il avait reçu un travail à faire comme les autres. Et volontairement, parce qu'attention, ne dites pas, oui, je ne savais pas, quand vous passerez devant Dieu, que personne n'ait l'impression qu'il va pouvoir se sortir d'affaire en disant au Seigneur, mais tu sais, moi j'avais pas le temps, et puis je savais pas, on avait un pasteur qui nous expliquait rien du tout, voilà, il était très évasif dans ses prédications, tu sais Seigneur, moi j'ai pas trop compris les prédications du pasteur. Le Seigneur vous dira, vous ne comprenez peut-être pas ce que le pasteur disait, mais vous aviez tous la même Bible. Oui ou non ? Et il y a des gens qui ne réalisent pas que lorsqu'ils s'engagent à marcher avec Dieu, ils deviennent responsables. Et ceux qui ne sont pas conscients de leur responsabilité sont presque tous amenés à enterrer le talent. Et vous savez comment il a été repris sévèrement par son maître. Il n'y a pas dit, écoute, tu sais, ben, écoute, t'as eu peur, ben, écoute. Non. Cet homme a été perdu. Il s'est perdu. Le Seigneur a dit, c'est dehors, dans les ténèbres. Et c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Mes frères et sœurs, j'espère que vous êtes sérieux. Parce que vous allez dire, mais on répète ça depuis 30 ans, depuis 50 ans. Mais laissez-moi vous dire que ce moment approche où beaucoup de chrétiens vont connaître le désarroi parce qu'ils n'auront jamais pris au sérieux ces choses. Ou en tous les cas, ils auront peut-être écouté sérieusement, mais ils n'auront pas réagi intelligemment, constructivement, afin qu'ils sortent du pétrin dans lequel ils se trouvaient. Alors, dans l'Église, de toute façon, dans l'Église, il y a plusieurs situations au niveau négatif. Il y a ceux qui enterrent le talent, et il y a ceux qui, comme le gars en question, ils ont perdu le fer de l'âge pendant qu'ils travaillaient. Il y a ceux qui travaillent, alléluia. Dans l'Assemblée, il n'y a que Dieu qui sait exactement. Tous ceux qui travaillent pour savoir. Moi, je ne suis pas capable de savoir qui travaille, parce qu'il y a des gens peut-être qui sont discrets, mais qui font des choses vraiment pour le Seigneur. Le Seigneur leur a vraiment demandé certaines choses, ça ne se voit pas, mais ils font vraiment ce que Dieu leur demande. Vous me comprenez? Mais il y a, dans le côté difficile, ceux qui ont enterré le talent, pour des raisons ou pour d'autres, et puis ceux qui perdent le fait de la hache pendant qu'ils étaient en train de travailler. Alors, avec ceux qui ont enterré le talent, je suis désolé, mais on ne peut rien faire. C'est un choix volontaire. J'ai décidé de ne plus rien faire. Je suis dégoûté. J'ai été déçu. Je fais plus rien. On l'a pas eu tout dit, ça, le moment. J'ai invité du monde à la maison. C'est fini. J'ai été déçu. Il y a des gens. Voilà, je fais plus rien. Comme on dit, je rends le tablier. On peut l'avoir dit. On peut l'avoir dit. Et puis un mois après, on a dit, mais que je suis bête. Seigneur, je ne veux pas. Pardon, j'ai mal réagi. Et on peut se reprendre. Le tablier. Oui ou non? Ça peut arriver. Ne jugeons pas quelqu'un qui dit, oh, je suis fatigué, j'arrête tout. Et à partir du moment où c'est provisoire, ce n'est pas méchant. Mais il y en a qui l'ont véritablement fait. Et ça, c'est pas bon. En tous les cas, je pense qu'on ne peut, pour ainsi dire, rien faire avec quelqu'un qui a décidé d'enterrer le talent qu'il avait reçu. Et vous devez vous poser la question. Chacun, si vous ne faites rien pour Dieu, posez-vous sérieusement la question, mais dans quelle catégorie je suis? Est-ce que je fais partie de ceux qui ont perdu le fer de hache en travaillant? Est-ce que j'ai perdu mon talent, mon ministère, parce qu'en travaillant, ça, j'ai pas fait attention? Ou est-ce que je l'ai enterré? Et que j'ai pris la décision de ne pas faire valoir ce que Dieu m'avait donné? Ça, c'est une chose sérieuse. On ne peut pas forcer quelqu'un. Il faut que tous nous soyons motivés. C'est une question que je vous pose. Est-ce que vous êtes motivés pour l'avancement du royaume de Dieu? Est-ce que vous êtes motivé pour que l'Église continue à former des pasteurs? Est-ce que vous êtes motivé pour qu'on gagne des âmes, pour accueillir les rétrogrades, pour évangéliser les musulmans, pour continuer à évangéliser les filles de la rue? Est-ce que vous êtes motivé pour qu'on continue à soutenir M. et Mme Bordeneuve? Est-ce que vous êtes motivé? Mais ça, on peut pas forcer quelqu'un à être motivé. On ne peut pas l'obliger. Vous me suivez? C'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a que Dieu qui peut nous interpeller, nous dire, oh, mais c'est vrai, il faut que je retrouve cette motivation, ce désir, ce vouloir. Je veux me décider, je prends des termes bibliques, me déterminer, me prendre des résolutions qui feront que je vais déterrer ce talent que le Seigneur m'avait donné. Par contre, ceux qui perdent leur outil, cette histoire nous enseigne qu'il y a toujours la possibilité de les aider. Il y a des gens qui, pour une raison ou pour une autre, je ne vais pas évoquer toutes les situations, ont perdu leur ministère, leur service. Dans l'Église, il y a ceux qui refusent de travailler pour le Seigneur, mais il y a ceux qui ont perdu leur outil. Cette histoire, elle est là. Elle est profondément sérieuse. Il faut que vous ayez toujours à l'idée qu'un jour, tous, nous allons nous présenter devant le Seigneur pour lui rendre des comptes. Est-ce que vous y pensez de temps en temps? Vous qui êtes baptisés, vous y pensez de temps en temps? Répondez-moi. Est-ce que vous y pensez qu'un jour, nous allons comparaître devant le Seigneur et que nous devrons lui rendre des comptes. Vous y pensez? Oui? Une fois par an? Eh oui, tous les jours, c'est bien aussi, c'est peut-être mieux. Alors, soyons droits devant Dieu. C'est une affaire, mais vraiment sérieuse. Je vous assure, je crois que le Seigneur peut m'inspirer. et me montrer combien plusieurs sont légers avec cette affaire. Je vous assure, mes frères et sœurs. Vous voyez, j'ai parlé dans les annonces de l'éducation des enfants, certains parents ne voient pas. Et bien sûr, un aveugle, il ne voit pas. Mais c'est vraiment grave de ne pas éduquer ses enfants, de ne pas être capable de les corriger. C'est vraiment grave, parce que croyez-moi, vous le regretterez. Mais c'est mille fois plus grave de négliger son salut. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Alors peut-être que vous avez perdu cette capacité de faire le travail que vous devriez faire. Alors est-ce que vous voulez retrouver cette bénédiction? Alors quelqu'un va me dire, mais comment? Parce que s'il n'y a, pour ainsi dire, plus d'espoir pour celui qui ne veut plus se motiver, qui a volontairement enterré, parce qu'on voit bien, c'est un acte volontaire. J'enterre. Moi, j'ai connu plusieurs pasteurs qui ont arrêté le ministère. Ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit, Gérard, je te vends tous mes livres, je ne veux plus voir un livre chrétien. Moi, ça m'a brisé le cœur, ça. Et je ne le juge pas. Mais je sais qu'il y a des comportements qui expriment certaines décisions volontaires qui risquent de nous jouer des tours. Alors, avez-vous perdu? Avez-vous beaucoup perdu? Le diable vous a-t-il volé la couronne? Le diable vous a-t-il volé la paix, la joie? Le diable vous a-t-il volé votre ministère? Alors, de la même manière que cet homme avait un fer, une hache qui lui avait été prêtée, nous aussi, tout ce que nous avons, cela nous a été prêté. Oui ou non? Les ministères, ça nous a été prêté par Dieu. Comme la vie d'ailleurs. La vie nous a été prêtée par Dieu. Oui ou non? Rien ne nous appartient en fin de compte. Et c'est exactement la même affaire en ce qui nous concerne. Si vous avez un don, un talent, une capacité, un service, un ministère, appelez-le comme vous voudrez, n'oubliez pas que tout ça vous a été prêté par Dieu, nous l'avons emprunté, c'est à peu près la même chose, pour que nous puissions travailler dans son royaume. Alors c'est vrai qu'il se passe parfois des accidents. C'est un accident où il n'a pas veillé. Si vous avez déjà utilisé des haches, on le sent quand même quand ça se démanche. On le sent. Oui ou non? Moi, je travaille sur des chantiers, je peux vous dire qu'on le sent quand ça commence à... Mais voilà, on peut encore en faire un petit peu. On peut en faire un petit peu. On le sent quand ça se démanche, je peux vous le dire. Si vous faites du jardin même, hein, on le sent quand un outil se démanche. S'il avait été un petit peu plus soucieux, il n'aurait pas perdu. Ce qui nous prouve que la négligence, la légèreté contribuent à ce que nous perdions, ce que nous avons reçu du Seigneur. Mais enfin, ne jugeons pas, il y a des accidents dans tous les domaines. Il peut y avoir des accidents. Le résultat, il est quand même grave. Parce que là, on voit quelqu'un qui est désespéré parce qu'il ne peut plus travailler pour le Seigneur. C'est un disciple à l'école d'un pasteur qui tient debout, moi je trouve, et il est conscient qu'il ne peut plus faire pour Dieu. Si quelqu'un est dans ce cas de figure, écoutez bien, écoutez, s'il vous plaît. Si je prêche ça, c'est que quelqu'un est dedans. Si quelqu'un est dans ce cas de figure, vous devez savoir que Dieu veut vous aider. Si vous faites ce que vous avez à faire, qui veut vraiment faire la volonté de Dieu dans cette église? Mais qui veut vraiment faire la volonté de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui te disent, mais moi je veux faire la volonté? C'est sérieux. Vous auriez honte de lever la main et de dire, non, je veux faire la volonté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire la volonté de Dieu? Mais vraiment, d'une manière consciencieuse. C'est une affaire sérieuse. Mais quelqu'un qui dit, non, je ne veux pas juste fréquenter une église et m'asseoir le dimanche matin dans un lieu de culte. Non, je veux faire la volonté de Dieu. Quelle sorte de chrétien sommes-nous? Sommes-nous de ces chrétiens mais qui vraiment sont tombés dans une telle négligence, une telle paresse qu'il y a, oui, il n'y a plus rien à faire. Il faut le dire. Il y a des points de non-retour. Il y a des gens qui ont pris des décisions comme l'apôtre Paul. Rien ne me séparera de l'amour du Seigneur. C'est catégorique. Il y a des gens, je le sais, rien ne les séparera de Dieu. Il y a des gens, plus rien ne les ramènera à Dieu. Vous vous rappelez Pharaon? Il s'est endurci, il était arrivé à un point de non-retour. Plus rien ne pouvait le ramener à Dieu. Et nous ne faisons pas toujours attention à ces choses. Mais nous devons quand même nous poser la question, mais quelle sorte de chrétien je suis? Est-ce que je veux vraiment mener la vie que Dieu veut que je vive? Est-ce que je suis en train de travailler pour Dieu? Est-ce que j'ai perdu mon outil? Qu'est-ce que j'ai reçu? Est-ce que j'ai reçu certains talents, mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je suis encore empêtré dans ce tas de prétextes et j'ai pas le temps, Mais mes frères et sœurs, je vous en supplie, sortez de cette affaire. Vous qui dites, j'ai pas le temps. Mais quand vous allez passer devant Dieu, vous allez pleurer pour l'éternité. Ce que vous devez faire pour Dieu, vous avez le temps de le faire. Vous entendez, mes frères et sœurs? Ce que Dieu vous demande, vous avez le temps de le faire. Je vous en supplie, je suis votre pasteur. Je le fais personnellement. Je le fais de la part de Dieu. Je vous en supplie. Arrêtez de trouver des prétextes et de dire « j'ai pas le temps de prier, j'ai pas le temps d'aller à la réunion de prière, j'ai pas le temps de faire une visite à une personne âgée » parce qu'il y a des choses, vous les avez à cœur. Mais plus vous les repoussez, et plus la terre au-dessus du talent s'entasse, vous finirez même par oublier que vous avez reçu quelque chose. Et l'affaire sera terrible. Pas devant moi. Moi, je n'ai aucun compte à vous demander. Mais Dieu vous demandera les comptes. Dieu lui-même. Dieu veut que vous viviez cette grâce. Dieu veut, le temps vient, on ne pourra pas travailler. Après l'enlèvement de l'Église, vous croyez que vous pourrez travailler pour Dieu? Quand on va le voir, tout ce qui va se passer après l'enlèvement de l'Église. C'est bien qu'on le voit, même si ça ne nous concerne pas, c'est quand même bien qu'on le voit, parce que c'est quand même la volonté de Dieu que nous le sachions. Ces dons, ces talents, ne nous appartiennent pas. Dieu nous les a prêtés, que son nom soit béni. Vous avez reçu un talent? C'est une grâce, c'est une faveur. Ça lui appartient. Il vous les a confiés, vous devez les faire valoir. Je le répète, un jour, vous devrez rendre tout ça au Seigneur. Alors, comment réagissez-vous à cette prédication supplémentaire? Est-ce que vous êtes indifférent? Est-ce que vous dites, oui, bon, c'est bien, il est passionné, notre pasteur. Mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes dans l'indifférence par rapport au talent que vous avez perdu, au service que vous avez perdu, ou est-ce que vous êtes désespéré comme ce gars qui dit « Oh là là là, mais je ne peux plus rien faire pour le Seigneur. Je ne peux plus rien faire pour lui. » Est-ce que vous en êtes là? Heureux êtes-vous? Malheureux si vous avez enterré le talent. Heureux êtes-vous si vous êtes dans un état d'esprit de sérieux et que vous dites « Oui, je suis malheureux. Je prends conscience que je suis malheureux. J'ai perdu mon outil, j'ai perdu mon ministère, j'ai perdu mon talent. Et je veux l'aide du Seigneur. Je veux l'aide de Dieu. » C'est comme ça qu'on honorera le Seigneur. Dieu veut que nous l'honorions. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est Paul qui dit aux Corinthiens, mais je le dis à votre honte, quelques-uns parmi vous ne connaissent pas Dieu. C'était des chrétiens dans une église, l'église Corinthe, il y avait tous les dons spirituels, il y avait les pasteurs qui avaient, c'est quand même des pointures. Et bien Dieu va dire à certains, je le dis à votre honte, quelques-uns parmi vous ne connaissent pas le Seigneur. Cette histoire, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Qu'il ne faut pas régler les choses d'une façon humaine. On ne peut pas régler les problèmes spirituels d'une façon humaine. Humainement, ce problème, est-ce qu'il était soluble? Est-ce qu'il y avait une solution? Non. Au fond du Jourdain, dans la vase et tout, comment retrouver un fer de vache? Humainement, est-ce qu'il y avait une solution? Non, il n'y en avait pas. Il n'y avait qu'une solution spirituelle. C'est exactement la même chose pour chacun de nous. Ne méditez pas, mais moi, ça y est, j'ai compris, je vais me bouger, je vais m'y mettre. Voilà. Ça, c'est une situation humaine, vous achetez un scaphandre pour essayer de récupérer. Vous allez mettre la boucle pleine. Cette histoire, elle nous enseigne que nous sommes dans le royaume de Dieu et que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, que rien n'est impossible à Dieu. Vous avez vu ce qu'a fait Élisée, il lui a demandé, mais montre-moi l'endroit où tu as tombé le fer de l'âge. Dans l'Exode, il y a une histoire aussi où Moïse a dû jeter un bout de bois dans les eaux amères, dans les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Et l'eau est devenue douce. Ce bois qui est jeté par Moïse dans les eaux amères, ce bois qui est jeté à l'endroit où ce disciple a perdu le fer, représente la croix. C'est pour ça que j'apprécie tous les cantiques sur la croix. La solution, elle est toujours à la croix. Si nous revenons à la croix, vous allez me dire, mais la croix, c'était que pour le début, pour la repentance. Non, la croix, ça sera toute notre vie. Ça sera chaque jour. Beaucoup de chrétiens sont catastrophés, dans la panade, dans la misère, parce qu'après être rentrés dans le royaume de Dieu, ils essaient de servir Dieu avec leur propre force d'une manière humaine. Cette histoire, c'est une affaire spirituelle. Le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, les solutions, elles sont spirituelles. Les eaux sont redevenues saines. Parce qu'on a jeté ce bout de bois qui représente la croix. La croix est la solution à tous les problèmes amers. Il n'y en a pas les situations amères dans la vie, hein? Il n'y en a pas les situations amères. Il y en a... C'est la croix. Le dit par voilà, je vais. Moi, j'ai toujours été positif. Ouais, quand j'étais jeune, on me disait que j'étais optimiste. L'optimisme, c'est bien. C'est bien. Mais ça ne règle pas les problèmes spirituels. Il faut la réalité de la croix. Est-ce que vous voulez la croix dans votre vie? Est-ce que vous voulez être toujours attaché au Seigneur? C'est pas parce qu'on est à l'église qu'on est attaché au Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes attaché au Dieu? Comment vous avez reçu l'évangile? Faisons un petit rappel. Comment vous avez reçu l'évangile? Vous avez entendu la prédication de la croix et vous avez entendu « Repentez-vous et convertissez-vous ». Et vous obtiendrez le pardon de vos péchés, et soyez baptisés, et recevez le baptême du Saint-Esprit. Je le résume? C'est à peu près comme ça? Bon. Donc, la repentance, la conversion, le baptême d'eau, tout cela, ça représente un engagement. Nous l'avons fait par la grâce de Dieu, mais nous l'avons fait par la foi. Le baptême, pour ceux qui veulent le prendre, ça représente un ensevelissement. Que notre vieille vie va être enterré et que nous allons ressortir à une vie nouvelle. Mais il ne faut pas oublier aujourd'hui que pour les nouveaux qui découvrent l'évangile, certains chrétiens n'étant pas nés de nouveau, ils ne voient pas de différence. Il était grossier avant sa conversion, et il est grossier après. Pourtant, il a pris le baptême. Il était avare avant sa conversion, il est encore plus après. Mais il a pris le baptême. Mais il ne s'est pas converti. Ça, c'est un dommage dans le royaume de Dieu qu'on ne peut même pas calculer les conséquences. Mais normalement, quand quelqu'un est vraiment passé par la repentance, par la conversion, par la nouvelle naissance, il y a tout un travail et ce baptême représente un ensevelissement et une résurrection. Il y a une union avec le Seigneur Jésus-Christ. Et tout ça, c'est par la croix. C'est pour ça qu'il faut revenir à la croix et aimer, prendre la Sainte Seine, réaliser chaque fois la beauté. Moi, j'apprécie chaque fois qu'on prend des textes sur la Gethsémané, sur Golgotha, sur le calvaire. Nous voyons ces choses, c'est important. Cette histoire, elle nous rappelle la puissance de la croix. Pourquoi faire? Pour récupérer ce que vous avez perdu. C'est par la croix que vous récupérerez ce que vous avez perdu. Vous entendez, mes frères et sœurs? C'est pour ça que vous devez vous approcher du Seigneur Jésus de tout votre cœur. Et réaliser, relire les évangiles. Quelqu'un me disait il n'y a pas longtemps, mais moi les évangiles, je ne les lis plus. Je les connais par cœur. Mais on dirait de quelqu'un qui dit, moi j'ai mangé de tout, je ne mange plus. Mais vous direz, où tu vas mourir? Mais c'est pareil, c'est exactement pareil. J'ai goûté à tout. Je ne mange plus. On dirait qu'il est bête. On ne le dirait pas, mais on penserait. Parce qu'on irait le voir 3 mois après quand même, pour l'année. Combien de chrétiens en sont là, inconscients, de ne pas revenir à la beauté de l'évangile? Cette histoire, elle est là, mes frères et sœurs. Ce que vous avez perdu, Dieu vous le redonnera par la croix. Dieu vous le redonnera par la repentance, si c'est nécessaire, pour obtenir le salut. Vous avez fait un acte de foi. Vous avez tendu la main pour obtenir le salut. Oui ou non? La main de la foi. Eh bien, pour retrouver le ministère, le service, le talent que vous avez perdu à cause de votre négligence, vous devez faire pareil. Élisée a dit, mais vas-y, jette, il a jeté le bras, il a dit, maintenant, récupère-le. Et ce matin, quand on chantait « Loué soit Dieu », quand on a chanté « Loué soit Dieu », sérieusement, je voyais dans l'esprit cet homme tendre la main et rattraper le bout de l'âge. Mais je le voyais vraiment. Et j'avais envie de pleurer. Parce que je dis que tu es bon, Seigneur. Que tu es bon. Dans le monde, quand on pète les outils, quand on cache le matériel, on peut être malmené. Mais Dieu, il n'est pas là pour nous malmener. C'est vrai qu'il faut accepter sa sévérité, parce que s'il n'y a pas de sévérité, les gens, ils n'écoutent rien. Mais nous avons un Dieu qui, ce matin, vous dit, écoutez bien, tends ta main. Fais un acte de foi. Tu l'as fait pour obtenir le pardon de tes péchés. Tends-la ce matin. tant d'années, fait un acte de foi par la croix et retrouve ton ministère. Mon frère, ma soeur, jeune ou vieux, c'est pas péjoratif, vous le savez. Les couples, les célibataires, tendez votre main. Dieu vous le demande. Oui, il est sévère dans ses exigences. Mais, comme dit le cantique, il est sévère dans ses exigences. Et riche en son amour. Il est sévère où il est tombé, ce frère. Souviens-toi d'où tu es tombé. Mais qu'est-ce que c'est qui t'avait plongé dans la pornographie? Qu'est-ce que c'est qui t'a plongé dans l'alcoolisme? Qu'est-ce que c'est? Où tu es tombé? Mais si tu tends la main, tu retrouveras le service. Et je voudrais vraiment, mes frères et sœurs, que l'on ferme les yeux quelques instants. On pourrait rechanter d'ailleurs « Loué soit Dieu, s'il vous plaît ». Et Dieu est un Dieu de miracles. Peut-être que vous êtes dans une dénomination qui ne croit plus aux miracles. Mais Dieu fait des miracles. Je m'adresse à ceux qui écouteront sur Internet. Vous êtes dans une dénomination où on ne croit plus aux miracles. Eh bien, vous, attendez-vous au miracle de Dieu. Attendez-vous au miracle. Le temps des miracles n'est pas passé. Dieu a des œuvres. Dieu a des plans. Oui, il est sévère à ses exigences. Croyez-vous à la puissance de la croix? Qui croit à la puissance de la croix, en fait, parmi nous? Qui croit à la puissance de la résurrection? Qui croit que tout nous a été acquis au calvaire? Alors ce matin, saisissez cette victoire. Et pendant qu'on va chanter ce cœur, loué soit Dieu. Saisissez, tendez votre main. La main de votre cœur, ce n'est pas la main physique. Dans les églises, on fait tendre la main aux gens. Tendez la main, Dieu va vous bénir. C'est de la superstition. Quand bien même vous auriez un morceau du bois de la croix dans votre poche, ça ne servirait à rien. À rien du tout, ça ne serait que superstition. C'est spirituel. Vous n'avez pas obtenu le salut de manière automatique. Vous n'obtiendrez pas la bénédiction d'une manière automatique. Il faut un acte de foi. Qui a besoin d'être restauré? Qui ce matin a besoin de retrouver son outil? Qui a besoin? On reste les yeux fermés. Répondez-vous à vous-même. Mais qui a besoin? Qui a besoin ce matin? Oui, il faut que je retrouve. Il faut que je le retrouve. Il faut que je sois sérieux. Pas faire semblant de continuer de taper avec le manche comme si tout allait bien. Les chrétiens, ils sont comme ça. Ils tapent avec le manche. Il n'y a plus rien, ils tapent. Il faut semblant. Ça ne va pas avancer, je vous le dis. Loué soit Dieu, loué soit Dieu. On ne l'a pas expulsé, le disciple. Il a fait une expérience qui a béni des millions de chrétiens dans des centaines de pays sur la terre. Est-ce que vous voulez que votre expérience bénisse les autres? Vous ne voulez pas que votre retour à Dieu bénisse les autres? Vous ne voulez pas que, en retrouvant votre ministère, vous bénissiez les autres? On va chanter. Loué soit Dieu. Pendant ce moment, prions. Si vous êtes interpellé, ne chantez pas, mais priez assis à votre place. Suppliez Dieu à votre place. Faites comme cet homme qui était désespéré. Il était emprunté. Seigneur, tu m'as donné un talent. Je chantais avant, dans la chorale. J'étais animatrice à l'école du dimanche. Je m'occupais des personnes âgées. Tu m'avais demandé, Seigneur, de faire des visites. Tu m'avais demandé de prêcher. Tu m'avais demandé, Seigneur, j'ai tout perdu. Pardon, 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 pardon. Il va vous pardonner. Mais tendez la main pour retrouver le ministère. Chantons ce cantique et prions. Si vous êtes concernés, restez recueillis, les yeux fermés, et invoquez, tendez votre main, invoquez-le.